Le Mag de l'Immo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier, chaque vendredi 7h-9h en direct sur Radio Immo.
Bonjour, bienvenue sur Radio Immo. Bon réveil à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de cette émission qui reprend les meilleurs moments de la semaine et vous décrypte l'actualité immobilière. Alors on est le vendredi 19 mai, un bon début de journée à 19 degrés. Ça va monter apparemment jusqu'à 26 degrés aujourd'hui, cet après-midi. Il va faire chaud, mais attention, on risque d'être un peu mouillé. Ils annoncent un petit peu de pluie. Alors au programme de l'actu, des infos, des découvertes. Ensemble, nous allons parcourir pendant cette première heure des sujets passionnants qui vous intéresse si vous êtes professionnel de l'immobilier, futurs acquéreurs ou propriétaires. Et puis en deuxième heure, notre grand invité sera Vincent Ego, directeur général de Cogedim, l'un des tout premiers acteurs de l'immobilier en France. Depuis 1963, plus de 110 000 logements ont été réalisés par Cogedim. On va voir le décryptage de ce marché immobilier qui tourne au casse-tête quand on regarde l'offre et la demande très très forte. Comme chaque vendredi, on va découvrir une nouvelle start-up grâce à Jean-Michel Royau. C'est Flatsy cette semaine d'Alexis Schaffer-Ivart. C'est quoi Flatsy? Une start-up qui vise à simplifier les visites immobilières. Voilà, c'est parti, le Mag de l'Immo, c'est maintenant.
Le Mag de l'Immo, en partenariat avec Opinion Système, promis et bien ici.
Pour l'immobilier de prestige, le début d'année a été meilleur que celui de l'an passé. De janvier à avril, le réseau d'agences immobilières Daniel Féo a enregistré une augmentation des transactions à Paris et dans la proche couronne par rapport à la même période en 2021. C'est une chronique de Bernice Deville.
L'inflation et la crise économique liée à la pandémie de Covid-19 et à la guerre en Ukraine impactent l'immobilier. Cependant, un marché résiste. Il s'agit de l'immobilier de prestige parisien. C'est bien vendu à Paris, mais aussi dans la proche couronne, plus de 2 millions d'euros. Alors, beaucoup ont une valeur située entre 2 et 3 millions d'euros, mais il y a aussi des biens exceptionnels vendus plus de 3 millions d'euros. Selon Boursier.com, les chiffres des ventes de ces biens entre janvier et avril de cette année ont déjà dépassé celles de l'an passé à la même période. Le réseau d'agences immobilières Daniel Féo a d'ailleurs enregistré une augmentation nette des transactions depuis début 2022. Il a été constaté que les beaux appartements parisiens, sans défaut, avec un espace extérieur, ne reste pas sur le marché. Ils partent même à une vitesse rarement vue, et ce, même lorsque le prix est situé dans la fourchette la plus haute. Il faut dire que le fameux espace extérieur est ultra convoité depuis les différents confinements. Alors, ceci étant dit, même sans ces graals que sont devenus les balcons, les terrasses et bouts de jardin, les biens sans défaut restent affichés à des prix stables et élevés. Prenons l'exemple d'un appartement de 132 mètres carrés dans le très chic 16e arrondissement de Paris, vendu en mars dernier 3,7 millions d'euros. Autre exemple, un appartement d'exception dans le 7e arrondissement, cette fois-ci, donnant sur le Champ de Mars et sur la Seine, avec trois chambres et d'une superficie de 167 mètres carrés. Il a été vendu à 5 millions d'euros. Vous l'avez compris, nous parlons de biens hors normes, sans aucun défaut. En revanche, les biens situés à des étages inférieurs, avec des nuisances sonores ou encore qui manquent de luminosité, restent en vente plus longtemps et peuvent voir leur valeur baisser. Concernant la province, on constate que les ventes des biens immobiliers ont subi en général un léger recul comparé à l'an passé. L'une des explications serait la pénurie de belles maisons à vendre, victimes de leur succès, notamment dans le sud de la France et sur la côte normande. À propos des acquéreurs, au sein du réseau immobilier Féo, on a vu leur nombre baisser de 10% par rapport à 2019. Ces derniers surveilleraient de près en revanche les taux d'emprunt qui commencent tout doucement à remonter en raison de la forte inflation et n'hésite pas à contracter des crédits rapidement en prévision d'une poursuite de ce mouvement. Les dirigeants du réseau Féo précisent que les multiples élevés et la volatilité observée sur les marchés des actions incitent les Français à privilégier la pierre dans leur allocation personnelle d'actifs. Selon eux, la dimension valeur-refuge de la pierre pèse dans le contexte actuel. Une valeur de jouissance quotidienne se manifeste même par la volonté d'allouer une part plus importante de son patrimoine à l'endroit où l'on vit tous les jours. Concernant maintenant la clientèle internationale, notamment nord-américaine, elle opère un retour assez timide, mais l'appétence pour Paris et un cours du dollar très favorable pourraient l'emporter face à l'instabilité économique liée à la guerre en Ukraine.
Le Mag de l'Immo, la matinale info et rencontres dédiées à l'immobilier.
Cette semaine, Radio Immo était partenaire de la conférence CGP organisée par Sébastien Barraud à l'IMSI. L'occasion de rencontrer des professionnels de l'immobilier, notamment des promoteurs. Écoutez Loïc Sauvage, directeur général délégué de Green City. Il est très inquiet sur l'avenir de la filière. Il demande au futur ministre du Logement un moratoire sur les mesures mises en œuvre par le gouvernement dans le cadre de la RE 2020. Il est au micro de Fabrice Coustet.
La conférence CGP, organisée par Sébastien Barraud sur le thème résilience, on est en compagnie de Loïc Sauvage, directeur général délégué de Green City. Bonjour Loïc.
Bonjour.
Alors un petit mot de Green City, Green City Immobilier en quelques mots.
Alors Green City Immobilier en quelques mots, promoteur et immobilier toulousain, siège social à Toulouse, d'envergure aujourd'hui nationale, avec des représentations à Paris centre-ville sur la région d'Annecy et incessamment sous peu sur Nantes et sur le Pays Basque. 140 collaborateurs, 340 millions d'euros de chiffre d'affaires, présents sur le marché de la résidence principale, de l'investissement locatif de type Pinel, Pinel Plus demain, et également de plus en plus sur le marché du loueur en meublé non professionnel.
Très bien, alors on va passer Loïc aux questions d'actualité. On sent que le crédit est en train d'être un peu tendu en ce moment, en tout cas ça se resserre, certains primo-accédants sont d'ores et déjà exclus. Est-ce que vous êtes inquiet pour la suite de l'année ?
Bien entendu inquiet, hein, c'est le cas pour toute la filière, hein, pour l'ensemble des collègues et des confrères promoteurs immobiliers. On est confronté au quotidien effectivement avec ce gap extrêmement important entre nos prix de revient qui vont guider nos prix de sortie d'immobilier neuf à titre de résidence principale et bien sûr nos coûts de production. Ça ne s'arrange pas du tout, hein, avec la crise de l'approvisionnement en matières premières qu'on peut connaître qui vient encore doper complètement nos coûts de prix de revient de chantier et ce n'est que le début. Donc effectivement, très très inquiet par rapport à l'avenir. Ce qu'on peut dire effectivement, c'est de se dépêcher de rencontrer les conseillers des différents promoteurs parce qu'on sait que les prix ne vont faire qu'augmenter, que ce soit en résidence principale ou en investissement locatif. On sait d'ores et déjà que bien entendu, l'année prochaine, ça sera encore beaucoup plus élevé.
Les prix vont monter, les taux se resserrent. Bref, la fenêtre est étroite. On attend le nouveau ministre du Logement. On a eu Julien de Normandie, on a eu Emmanuel Wargon. Qu'est-ce que vous aimeriez dire au nouveau ou à la nouvelle ministre ?
Alors beaucoup de choses. Je sais que au niveau de la Fédération des promoteurs immobiliers, on attend bien entendu cette nomination pour pouvoir effectivement être écouté. Notamment, on a cette réforme de Pinel, hein, qui est Pinel Plus l'année prochaine. On a des référentiels aujourd'hui. On ne sait pas trop où on va au niveau de nos coûts de chantier. Je viens de l'évoquer un instant, mais tout n'est pas établi pour l'année prochaine. Peut-être une sorte de moratoire déjà pour passer au Pinel Plus. C'est ce qu'on voudrait demander. Je parle sur la filière de l'investissement locatif et peut-être patienter un petit peu pour cette mise en place de la norme de la RE 2020 parce qu'aujourd'hui, on n'est pas en place. Clairement, la filière n'est pas en place pour établir nos plans de promotion pour l'année prochaine, tout simplement. Hein, on sait toujours que dans la filière de l'immobilier aujourd'hui, enfin les industriels, les artisans travaillent avec des coûts de revient qui ne sont pas encore établis pour l'année prochaine. Je parle de plein niveau, hein, mais au niveau du complexe d'isolation phonique, thermique et acoustique, aujourd'hui la filière industrielle n'est pas au point. Et donc on n'a pas de référentiel pour savoir à combien on va construire l'année prochaine pour répondre aux normes. Donc prenons le temps, hein, le système était plutôt très bien fait jusqu'à présent avec des mises en normes dans le temps. Aujourd'hui on nous précipite un petit peu, je dirais, avec la réforme Pinel Plus qui doit répondre à ce dispositif. C'est un petit peu trop rapide pour nous, je pense.
On est allé trop vite dans cette RE 2020 ?
Oui, c'est très bien, hein, c'est proposer des logements de qualité, on n'y revient pas, mais on va un petit peu vite là. Alors, le schéma était plutôt bien fait, je pense. Là, avec la Pinel Plus qu'on nous demande et qui va devoir répondre à ces normes environnementales, c'est un peu trop rapide pour nous, je pense.
Voilà, l'idée d'un moratoire proposé par Loïc Sauvage. Je rappelle que vous êtes directeur général délégué de Green City. Merci Loïc, à très bientôt.
afraid, 'cause it sounds to me to find a new way to breathe. I just let go, out on my own. Watch me enjoy the ride, and where the twists and the turns, I'm gonna learn. I'm the only one to decide.
Le Mac de l'Immo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier.
Le SMIC revalorisé ne fait pas augmenter le pouvoir d'achat immobilier des Français, hélas. Trois revalorisations du salaire minimum en 7 mois ne parviennent pas à donner au plus bas salaire davantage de pouvoir d'achat immobilier. C'est une étude réalisée par le réseau de courtage Vous Financez.
Le coût de la vie augmente et pour faire face, les pouvoirs publics ont décidé ces derniers mois d'accompagner les plus bas salaires en revalorisant par 3 fois le SMIC, le salaire minimum, qui a augmenté de 171 euros net depuis janvier 2021. Un coup de pouce bienvenu qui ne permet pourtant pas aux salariés de gagner du pouvoir d'achat immobilier, selon la société de courtage Vous Financez qui vient de réaliser une récente étude. La conjonction de l'augmentation des taux des crédits et des prix au mètre carré dans les villes est bien supérieure à cette augmentation du SMIC. Depuis le début de l'année, les taux sur 25 ans sont passés de 1,3 à 1,7%, entraînant une diminution de la capacité d'emprunt des salaires minimums de plus de 2 000 euros en seulement 5 mois, de 107 210 euros contre 104 948 euros, nous dit Vous Financez. Et l'étude compare aussi les territoires et nous livre un constat sévère. Les capacités d'achat immobilière ont reculé dans toute la France depuis le début de l'année. Le recul le plus fort est observé au Mans, où le pouvoir d'achat immobilier a baissé de 3,4 mètres carrés en seulement 4 mois. Dans la ville sartoise, les prix ont augmenté de l'autre côté de 3%. Suivent Brest et Saint-Étienne, moins 3,1 mètres carrés avec des hausses de prix fortes. Ici aussi, 1,5% d'augmentation à Saint-Étienne, 4,1% à Brest. On constate aussi toujours des écarts entre les territoires, alors que le SMIC est le même sur toute la France. Vous pouvez acheter pour 10,3 mètres carrés à Paris contre 85,1 mètres carrés à Saint-Étienne, 64,5 mètres carrés au Mans ou 51,2 mètres carrés à Nîmes. Les plus bas salaires sont donc pénalisés doublement, leur pouvoir d'achat immobilier n'augmente pas et les possibles ne sont pas les mêmes selon les territoires. Reste à savoir comment vont évoluer les prochains mois de l'année car les produits alimentaires augmentent eux aussi et risquent donc d'éloigner les plus précaires des possibles investissements immobiliers qu'ils peuvent faire.
Le Mac de l'Immo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier.
C'est un programme de réhabilitation hors norme à 450 millions d'euros. Le promoteur Imrige a livré le 17 mai dernier Morland Mixité Capital, qu'il aime à définir comme un immeuble quartier. Un emplacement idéal en bordure de Seine au cœur du 4e arrondissement. Alors bâti dans les années 60, l'austère tour de 16 étages avait d'abord abrité la préfecture avant son acquisition par la ville de Paris. Un immeuble qui n'était pas très aimé des Parisien. C'est une interview de Laurent Dumas, le directeur d'Emerige.
C'est un énorme projet et c'est une opération totalement emblématique puisque pour la première fois en centre-ville en Europe, un ensemble de 45 000 m² a été réhabilité, a été respecté dans son architecture. C'était un immeuble qui était détesté des Parisiens, qui va sans doute devenir the place to be à Paris pour les années à venir, et surtout qui comporte 11 destinations. Donc c'est ce qu'on appelle un immeuble à usage mixte que l'on a poussé au plus loin, puisque vous avez du logement social, du logement intermédiaire, du logement privé, des bureaux, une crèche, un centre sportif, un hôtel, une auberge de jeunesse, une œuvre d'art monumentale, de l'agriculture urbaine, enfin des commerces, un marché alimentaire, enfin bref, un immeuble qui va être accessible à tous, à tous les Parisiens et à tous ceux qui visitent Paris.
Un immeuble détesté par le passé. Vous pouvez redire pourquoi cet immeuble est chargé d'histoire ?
Il est chargé d'histoire d'abord parce qu'il se construit sur ce qui s'appelait jadis l'île Louviers. Il est construit par la Prade dans les années 60 et son architecture était considérée comme très austère. En particulier car la cour dans laquelle nous nous trouvons était ouverte à tous les vents. Aussi parce que c'était un immeuble à usage surtout administratif et donc on venait y demander des autorisations administratives. Aujourd'hui, on va venir y vivre, on va venir y dîner, on va venir y faire la fête, on va venir y vivre. Je crois qu'avec l'intervention aussi et de l'architecte David Chipperfield et de Michel Devine, qui a créé les fantastiques jardins que vous avez derrière vous, et du studio Other Space de Sébastien Bormann et de Lafour Eliasson, vous avez ici tout ce que l'on peut, ce dont on peut rêver au sein d'une ville aussi active et formidable que Paris.
Quelle est la philosophie pour la commercialisation ? Il y a déjà de l'intérêt qui se manifeste ?
Tout est pris, c'est-à-dire les commerces vont ouvrir dans les semaines, mois qui viennent. L'hôtel sera en exploitation le 1er août. L'auberge de jeunesse ouvre dès ce soir et le marché alimentaire ouvre dans 15 jours.
Disons que c'est un projet qu'il faut imaginer à plusieurs étages. Alors, il y a le sol, bien sûr, qui est un grand sol. Il y a un demi-hectare au sol avec un jardin qui fait environ 1000 m². Tout ceci, bien entendu, est une construction artificielle, c'est un sol artificiel, mais on a réussi à faire une sorte de miniature de petits boisements d'Île-de-France. Donc c'est une plantation très dense, ça évoque plutôt un milieu naturel qu'un jardin. Et il s'agit vraiment de miniatures, donc il y a des couvre-sols comme on le trouve dans les sous-bois et des, oui, une végétation qui miniaturise littéralement une petite forêt.
Radio Imo. Le Mac de l'Immo, la matinale info et rencontres dédiées à l'immobilier.
La capitale, souvent surnommée le lingot d'or de l'immobilier, perdrait-elle de son lustre ? Après plusieurs mois consécutifs de baisse, 5 arrondissements ont franchi à la baisse. La barre symbolique des 10 000 euros le mètre carré.
Dans la pierre comme en bourse, l'adage « les arbres ne montent pas jusqu'au ciel » prend à nouveau tout son sens. Alors que l'on pensait la hausse des prix de l'immobilier parisien inexorable, la barre symbolique des 10 000 euros par mètre carré vient d'être franchie à la baisse dans 5 arrondissements. Pire, d'après une étude de Meilleurs Agents, les prix parisiens sont orientés à la baisse déjà depuis plusieurs mois et cette baisse pourrait durer. Le site précise ainsi que les prix parisiens ont reculé de 0,2% en un mois. Le seuil des 10 000 euros du mètre carré a d'ores et déjà été franchi par 38% du parc immobilier parisien depuis avril. Si en moyenne le prix est toujours de 10 170 euros du mètre carré dans le détail, 5 arrondissements de la capitale sont repassés sous la barre symbolique des 10 000 euros du mètre carré. Sur le podium des arrondissements les moins chers, le 19e affiche en moyenne 9 200 euros du mètre carré. Juste derrière, on retrouve un autre arrondissement de l'Est parisien, à savoir le 20e, où le prix du mètre carré est estimé en moyenne à 9 500 euros. Arrive ensuite le 13e arrondissement avec 9 600 euros du mètre carré, le 18e avec 9 700 euros du mètre carré, et enfin le 12e avec 9 900 euros du mètre carré. Pour l'heure, les autres arrondissements de la capitale restent au-dessus des 10 000 euros du mètre carré, mais pour combien de temps ? Selon Meilleurs Agents, ces prix devraient continuer à baisser, particulièrement dans le centre de la métropole, mais cette baisse devrait rester modérée. Thomas Michel, franchisé Guy Hoquet dans le 19e arrondissement, explique avoir constaté une franche baisse. Des familles entières, selon lui, ont quitté l'arrondissement et même Paris pour aller en banlieue ou même en province. Pour lui, c'est le troisième confinement qui a accéléré l'exode et poussé de plus en plus de Parisiens à franchir le pas. L'essor du télétravail a permis aussi à beaucoup de pouvoir quitter la capitale. La question reste de savoir si ce mouvement ne va pas s'inverser avec la fin des restrictions sanitaires. En tout cas, une chose est sûre, les acheteurs négocient de pied ferme et les délais s'allongent. Les vendeurs qui avaient totalement la main dans un marché de pénurie se retrouvent contraints à ajuster leur prix de vente à la baisse. C'est peut-être la fin de l'âge d'or pour les vendeurs, tant mieux pour les acheteurs.
Le Mac de l'Immo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier.
Alors que le nouveau règlement européen permettant aux plateformes de crowdfunding d'obtenir l'agrément de prestataire de services de financement participatif est entré en application le 10 novembre 2021, le texte prévoit une période de transition d'un an jusqu'à novembre 2022. Mais ce délai semble trop court pour bien se faire dans de bonnes conditions pour le marché européen du crowdfunding. C'est David Elnouchi, président de Club Funding, qui nous le dit dans cette interview. David Elnouchi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le cofondateur de Club Funding et vous poussez un coup de gueule parce que vos plateformes se sont prononcées cette semaine pour une extension de la période de transition pour l'obtention de l'agrément PSFP. Alors qu'est-ce que c'est ? Le PSFP, c'est le prestataire de services de financement participatif. Vous pouvez nous expliquer ce coup de sang ?
Alors oui, c'est pas un coup de sang ou un coup de gueule, c'est plus une demande qui a été faite de façon conjointe entre notre association professionnelle FPF et l'association professionnelle de nos homologues en Allemagne. Donc c'est vrai que il y a à peu près un an a eu lieu cette réforme qui entre en vigueur en novembre de l'année dernière et qui nous impose de nous mettre en conformité avec ce nouveau règlement d'ici novembre 2022, donc dans à peu près 6 mois. Et c'est vrai que il y a énormément de changements et de modifications qui sont demandées dans ce règlement, et c'est très bien, on y reviendra sûrement après, mais ça nous demande un peu d'effort, et on n'est pas certain que toutes les plateformes arrivent à s'y conformer tout de suite, dans les 6 prochains mois, donc c'est pour ça, et puis on n'est pas les seuls, donc il y a aussi les plateformes en Allemagne, donc c'est pour ça qu'on demande à la Commission européenne de faire preuve de sympathie et de nous permettre d'avoir un délai supplémentaire pour mettre en place cette nouvelle réforme qui doit nous permettre d'aller de l'avant.
Qu'est-ce que ça représente comme mesure d'adaptation, comme réforme? Ça prend du temps. C'est quoi? C'est des process? C'est de l'écriture, des reporting?
Exactement, ça va être le process de souscription, d'information des investisseurs, les communications sur les taux de défaut, ça va être vraiment une harmonisation de toutes les pratiques entre toutes les plateformes des différents pays européens. Et donc c'est vrai que dans la manière de fonctionner, dans les process IT, ça nous demande quand même un travail, un investissement assez assez conséquent. Et c'est vrai que nous sommes la plateforme numéro un en France hein, en immobilier, et même nous, ça nous demande beaucoup de travail. On a des équipes qui sont mobilisées pour le faire. Mais c'est beaucoup d'investissement. Et donc, pour les plateformes un peu plus modestes, ben on imagine que ça peut vraiment impacter leur business. Et on veut justement pas que ces enjeux réglementaires prennent le pas sur la dynamique économique et la viabilité des plateformes. Parce que, vous le savez, le crowdfunding double de volume chaque année. Cette année, enfin en 2021, c'était 1 milliard de collectes en France versus 500 millions l'année précédente. Donc voilà, on veut surtout pas bloquer cette croissance. Ce serait vraiment dommage. C'est un secteur qui est en pleine phase de maturité, hein, qui avec des plateformes qui deviennent toutes rentables économiquement, qui trouvent leur modèle, des investisseurs qui font confiance. Donc on veut vraiment pas que ces nouvelles règles mettent en péril finalement cette croissance et ce dynamisme qui est extrêmement sain.
Donc, comment vous faites un courrier à l'Europe? Ce sont vos avocats qui font pression? Vous attendez une réponse à un moment?
Oui, notre association professionnelle FPF s'est mise donc en commun avec les homologues, l'homologue allemande, et on a fait un courrier à la Commission européenne, et on espère avoir un retour rapidement. On s'y est pris quand même largement en avance, puisque la deadline était dans 6 mois. Il y a des échanges avec la Commission européenne assez fréquemment, notamment avec notre association professionnelle. Donc voilà, on a bon espoir que notre demande soit entendue.
Alors, on voit que le crowdfunding, notamment dans l'immobilier, se développe fortement, mais pour vous, les perspectives, elles sont au-delà des frontières françaises.
Oui, donc c'est vrai que ce règlement, nous, on l'attend, puisqu'il va nous permettre d'aller au-delà de nos frontières, d'aller en Allemagne, en Espagne, en Italie, enfin vraiment partout dans l'Union européenne, et ça va nous permettre d'aller financer d'autres clients en Europe. Donc j'ai envie de dire, notre terrain de chasse s'élargit, et c'est très bien. C'est très bien parce que voilà, il y a des pays limitrophes qui ont des modes de consommation du financement immobilier qui sont assez proches des nôtres, d'autres différents. Donc voilà, on va pouvoir apprendre en allant dans ces pays. Donc c'est pour le développement de notre activité, c'est une super opportunité. Il y a un enjeu quand même dans cette réforme, c'est la baisse du plafond qui passe de 8 à 5 millions d'euros. Donc nous, on a fait 300 millions l'année dernière, et on va faire entre 500 et 600, j'espère, cette année. Donc c'est vrai que on fait beaucoup de dossiers entre 5 et 8 millions, donc on ne voit pas le rabaissement de ce seuil comme une opportunité, hein, clairement.
Pour vous, c'est un frein?
Pour nous, ça peut être un frein. Après, le développement du crowdfunding en France, il s'est fait par palier aussi. Hein. Quand on a lancé notre activité, le plafond était à 1 million, puis 2,5 millions, puis 8 millions. Donc, on espère que la Commission européenne aura le même... ira dans le même sens et va nous permettre de faire des plus gros projets avec le temps. Je pense que c'est normal, voilà, de mettre un peu plus de contraintes au départ et ensuite d'ouvrir au fur et à mesure, de desserrer les vis un peu au fur et à mesure. En tout cas, c'est ce qu'on espère, et on va pousser hein, pour que ça aille dans ce sens, évidemment.
Est-ce que le crowdfunding dans certains pays est aussi développé qu'en France? Un petit mot justement des spécificités des autres zones?
Oui, alors la France reste le marché, un des marchés principaux. L'Allemagne a un développement assez important. C'est intéressant de voir qu'il y a des pays comme la Lituanie, l'Estonie, où le crowdfunding est extrêmement développé. Donc voilà, c'est une super opportunité pour nous de voir un petit peu comment fonctionnent les opérateurs immobiliers, notamment dans ces pays. Donc voilà. Donc on a hâte de ce règlement. On a commencé à aller un petit peu à l'étranger, mais timidement, en finançant des entreprises françaises qui ont des projets à l'étranger. Là, on va pouvoir financer directement des plateformes, des sociétés à l'étranger.
Merci beaucoup David Elnouchi, vous êtes le cofondateur de Club Funding, un des leaders français des plateformes de prêt par obligation et de crowdfunding. Merci à vous, au revoir.
Le Mac de l'Imo, la matinale info et rencontres dédiées à l'immobilier.
Les Français s'intéressent de plus en plus à la consommation énergétique de leurs biens immobiliers. Lors d'un achat, c'est même devenu l'un des critères de choix fondamentaux juste après le prix et la localisation. Le réseau La Forêt confirme cette tendance dans son baromètre annuel réalisé par l'IFOP. Cette évolution a d'ailleurs amené l'enseigne à devenir partenaire d'Elio, acteur de référence dans le domaine de la rénovation énergétique. C'est un sujet de Bernice Deville.
Plusieurs critères rentrent en compte lors d'un achat immobilier. Dans le baromètre annuel du réseau La Forêt, réalisé par l'IFOP, on constate que pour 82% des Français, le prix du bien est le critère fondamental. Vient ensuite sa localisation, importante pour 79% des Français. Et en troisième place, on retrouve sa consommation énergétique, qui est un élément de choix pour 47% des sondés. Cette préoccupation, qui progresse depuis plusieurs années, a pris 5 points en un an. Elle devance maintenant l'agencement, 42%, et l'esthétique, 40%. Cet intérêt de plus en plus marqué est dû en partie au durcissement de la réglementation environnementale dans le secteur de l'immobilier ces dernières années. Rappelons que dès 2023, les passoires thermiques les plus énergivores de la classe G, qui consomment plus de 450 kWh énergie finale par mètre carré par an, seront interdites à la location. Cette interdiction concernera le reste des logements de la classe G en 2025. Les logements étiquetés F en 2028 et enfin les logements notés E en 2034. Les futurs acheteurs sont donc plus attentifs à la performance énergétique des biens qu'ils visitent. De fait, même si le fameux coup de cœur est encore ce qui guide l'achat pour 63% des Français, il régresse tout doucement, 65% en 2021, tandis que l'attention portée aux normes énergétiques augmente, passant de 35 à 37%. Les Français n'auront plus le choix, il faudra faire des travaux afin d'optimiser la performance énergétique de ces passoires thermique. Cela coûtera donc de l'argent aux propriétaires. Du coup, des aides se sont mises en place ces dernières années afin de leur permettre de rénover leur logement. Plus de 7 acquéreurs sur 10 se disent aujourd'hui prêts à se lancer dans ces rénovations. Et lorsqu'ils sautent le pas, il s'agit dans 70% des cas d'aménagements visant justement à obtenir des économies d'énergie. 49% le font également pour éviter les hausses de tarifs des fournisseurs d'électricité ou de gaz, 38% dans le but de mieux respecter l'environnement et 36% pour être plus autonome énergétiquement. Conscient de l'intérêt des Français pour des logements affichant une plus grande sobriété énergétique, le réseau La Forêt s'est rapproché de Elio, acteur de référence de la maîtrise de l'énergie, pour permettre aux 4500 collaborateurs de monter en compétence sur le sujet de la rénovation énergétique qui fait parler de lui, le but étant de déployer de nouveaux services d'accompagnement et de proposer des solutions pertinentes à ses clients pour les aider à optimiser leurs biens en matière énergétique.
Le Mac de l'Immo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier.
La Part-Dieu va être redynamisée avec la nouvelle tour Tout Lyon qui est en train d'être construite. Tout Lyon, c'est une tour connectée avec des éléments de façade comme des éclats d'obsidienne pour qu'elle puisse prendre la lumière à tout moment. Une tour de 160 mètres, 43 étages qui présente une double composante, une double échelle urbaine. C'est Patrick Supio, directeur chez Vinci Immobilier, qui nous l'explique.
En quoi l'élévation, la construction de cette tour est une étape marquante pour Vinci, mais pour Lyon aussi?
Alors, je dirais tout d'abord pour Lyon, plus que pour Vinci, c'est plus important. C'est un élément du projet urbain qui avait été imaginé par l'ancienne municipalité et qui va apporter une des briques fondamentales du renouvellement de Part-Dieu. C'est une brique qui va aider, je dirais, au contournement de la gare, au réaménagement de la gare et surtout au réaménagement des services autour de la gare pour les riverains et les habitants.
Où réside l'innovation, différents points de vue, dans ce chantier?
Alors l'innovation, elle a été tout d'abord de concevoir, ça paraît bête, mais de concevoir un projet qui est aujourd'hui d'actualité alors qu'on l'a conçu il y a plus de 5 ans et qui aujourd'hui correspond aux attentes du marché, c'est-à-dire énormément de services pour les utilisateurs de la tour, à l'intérieur même de la tour. Ensuite, c'est une innovation en termes de chantier, puisque comme on peut le voir, c'est un chantier qui se déroule autour de la gare, sur la place Béraudier, tout en n'interrompant pas à aucun moment l'utilité ou l'usage de la gare.
Quel défi avez-vous relevé?
Ce défi justement de rendre la gare accessible en tout moment, malgré le fait qu'on intervienne aussi massivement autour, c'est un défi technique. L'élévation, construire dans un espace urbain aussi réduit une tour de plus de 40 étages, c'est également un défi industriel. Je dirais qu'on répond aujourd'hui aux défis que le monde nous a amenés, que ce soit à travers le chantier qui s'est interrompu très peu de temps pendant la phase du Covid. Et on s'est arrêté de un mois et demi, l'opération a pu reprendre dans des conditions sanitaires très encadrées. Et ensuite, aujourd'hui, on est confronté à une pénurie de matériaux que là aussi, le groupe Vinci a pu anticiper et ce qui nous permet aujourd'hui de ne pas interrompre l'opération et de continuer.
Quel type de matériaux précisément étaient concernés? Et ce chantier, il va mobiliser à terme combien de personnes?
Alors, la principale préoccupation que nous avons eue sur les matériaux, ce sont les aciers que nous avons d'ores et déjà stockés pour la réalisation de la fin de la tour. Et ensuite, l'aluminium qui est nécessaire pour la réalisation de la façade, sur laquelle, là aussi, nos partenaires sous-traitants ont pris leur disposition pour que l'opération ne soit pas interrompue. Le chantier va mobiliser jusqu'à 1000 personnes en phase de pointe. Et donc là, on est en phase de croissance. Les corps d'État commencent à intervenir dans leur totalité sur la partie bureau.
Livraison quand ? Là, on en a quel pourcentage, proportion du projet, en quelque sorte ?
Alors, le chantier, nous avons deux chantiers. Un chantier de la place basse, la partie, les sous-sols, le sous-bassement, là, qui se terminera mi-2024, fin 2024. Et ensuite, la tour tout Lyon et l'hôtel, qui eux seront achevés deuxième semestre 2023. Donc là, nous sommes à 8 mois de la première délivraison. Bah, le projet, il est juste exceptionnel parce que c'est le plus gros projet de la région lyonnaise en ce moment et qu'ensuite, c'est un projet qui surtout est un projet collaboratif. C'est-à-dire qu'il a réuni dans sa phase montage et dans sa phase réalisation, il y a les volontés et le dynamisme à la fois de la collectivité, que ce soit la SPL, mais que ce soit également la ville elle-même, et ensuite le dynamisme de Gare et Connexion, d'Apicil, de tous les partenaires. Il y a eu vraiment une volonté de sortir cette opération qui est assez exceptionnelle. Alors, comme je vous le disais, il y a le projet de construction qui est réalisé par Vinci Immobilier, mais il y a également le projet de transformation de la gare qui est réalisé par la SNCF et Gare et Connexion, qui lui est tout aussi fondamental. Aujourd'hui, la gare fonctionne avec une simple transverse qui relie sous les voies l'ensemble des quais. Demain, à la fin de l'opération, on aura deux accès différents pour les quais, donc on double les capacités d'accès et de sortie des quais, et ensuite ce doublement est liaisonné par à la fois une galerie est et une galerie ouest, dont on voit aujourd'hui la première phase qui est le nouveau hall d'entrée de la gare, en fait le demi-hall d'entrée puisqu'il va se doubler quand la bascule de l'entrée provisoire sera faite, et qui va passer sous le projet tout Lyon, qui proposera à la fois des services de proximité, les services aux voyageurs, mais également toute une zone de commerce, d'accompagnement pour la gare. Tous les usagers de Lyon-Part-Dieu savent qu'il y a un engorgement à chaque arrivée ou sortie de train, et en permanence. Et donc là, on va pouvoir désengorger véritablement la gare. D'autre part, le projet va également pouvoir permettre de reconnecter le métro qui aujourd'hui n'est pas connecté directement à la gare, et le reconnecter à la gare. On va reconnecter la dépose taxi directement dans la gare. On va connecter le parking directement à la gare. Donc c'est l'ensemble de ces services connexes qui va améliorer la qualité d'usage.
Le Mac de l'Imo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier.
Après 5 années de forte expansion, décidément, le marché du coworking avait connu un coup d'arrêt brutal en 2020 en raison de la crise sanitaire. Il n'avait loué que 41 500 m² de bureaux en Ile-de-France contre un pic à 186 000 m² en 2019. C'est ce que nous dit une étude de Knight Frank. Autre contre-coup de la crise sanitaire, certains opérateurs ont libéré des surfaces, mais dans des proportions bien plus modestes que ce qui a été constaté dans d'autres pays. C'est un sujet de Johanna Silberstein.
Alors qu'il était en pleine croissance, le marché du coworking a subi la crise sanitaire de plein fouet. À l'arrêt total en 2020, il connaît désormais une belle reprise dès 2021, selon le bilan dressé par Knight France. Ainsi, près de 64 000 m² ont été loués l'année passée, soit une hausse de 54% en un an. Une nouvelle accélération a été constatée au début de cette année, grâce notamment au retour des grandes transactions. Niveau géographique, Paris concentre toujours la majorité des surfaces de bureaux louées aux opérateurs de coworking. En Ile-de-France, les premières et deuxièmes couronnes restent assez peu concernées par le coworking. Dans un avenir proche, elles devraient plutôt se voir développer des tiers-lieux tout près des résidences des travailleurs.
Le Mac de l'Imo, toute l'actualité immobilière sur Radio Imo.
Libre me voilà, c'est ma voix là, la suite en musique, sur scène en coulisses. Libre me voilà, mais sans toi là, la suite en roue libre, tout en équilibre. J'avais peur avant,
De l'IMO, la Startup IMO, en partenariat avec Bien Ici, Jean-Michel Royot.
La Startup Flatsy, à laquelle s'intéresse Jean-Michel Royot, eh bien son cœur de métier consiste à organiser pour les agences immobilières les visites des biens immobiliers à la vente ou à la location. Aujourd'hui, peu nombreux sont les agences immobilières qui se soucient vraiment du parcours locataire. En tout cas, c'est ce que nous dit Alexis Schaffert-Ivard, le fondateur de Flatsy, au micro de Jean-Michel Royot.
Bonjour à toutes et à tous. Ce matin, je suis absolument ravi de recevoir Alexis Schaffert-Ivard. Bonjour Alexis.
Bonjour Jean-Michel.
Comment ça va ce matin ?
Très bien, merci beaucoup.
En pleine forme ?
Oui, en pleine forme.
Bon, bah super. On va découvrir une nouvelle start-up ce matin qui s'appelle Flatsy.
Exactement.
F-L-A-T-S-Y.
C'est comme ça.
Alors Alexis, quelle est la promesse de Flatsy ?
Alors notre promesse, elle est simple, c'est de révolutionner la visite immobilière au profit de tous, à savoir le candidat d'un côté, l'agence immobilière de l'autre et enfin le propriétaire bailleur également.
Alors, revisiter, réenchanter la visite, c'est ça ?
Ouais.
Bon, on a évidemment envie d'en savoir plus, donc je me tourne vers le super tech David et je lui demande de nous mettre le fameux chrono parce qu'en une minute, on voudrait en savoir plus. Allez, c'est à vous Alexis.
C'est parti. Donc, pour faire très simple, l'idée m'est venue quand j'ai acheté un appartement à Paris il y a 7 ans. Et je me suis rendu compte que l'expérience de la visite était très frustrante et pas efficace. Compliqué de joindre l'agence, créneau horaire pas adapté mes contraintes pro et perso. Et enfin, je trouvais qu'il y avait aussi un petit conflit d'intérêt de l'agent qui bosse à la fois pour le propriétaire et aussi pour le visiteur. Du coup, fort de ce constat-là, je me suis dit, OK, ben, on va se concentrer sur la visite en proposant trois briques. Un outil de prise de rendez-vous en amont de la visite, un petit peu comme ce que peuvent proposer les médecins, pour simplifier le process, donc un outil qui est en ligne H24, 7 jours sur 7. Le cœur du réacteur de Flatsy, c'est la mise à disposition d'agents de visite qui permettent en fait aux agences de déléguer tout ou partie de leur visite en fonction de leurs besoins, bien éloignés, pic d'activité ou délégation 100%, aussi congés d'équipe, vacances et autres. Et enfin, il y a une troisième brique pour simplifier la partie administrative de l'agence avec un outil intelligent de captation des dossiers. Voilà, donc ça, on l'a créé en 2016. On est aujourd'hui 40 salariés, plus de 200 agents de visite sont présents dans 15 villes en France. Et on travaille avec quatre grandes typologies de clients, les ADB, les agences, les bailleurs sociaux.
Alors, les ADB, c'est quoi les ADB ?
Alors les ADB sont les administrateurs de biens.
Voilà, c'est vrai qu'on
c'est
a tendance
petit,
à...
Un petit, oui, tout à fait.
D'accord, alors on va reprendre les quatre. Administrateurs de biens.
Réseau d'agences. Agences digitales. Également, et bailleurs sociaux.
Donc effectivement, vous couvrez tout le spectre de l'offre locative.
Exactement, locative, on a aussi de la transaction.
Et de la transaction,
ouais, d'accord. Quasiment 50% de location et 50%.
D'accord, donc les visites, effectivement, ont deux objectifs, mieux louer ou mieux vendre.
Exactement, c'est changer l'expérience de la visite pour qu'elle soit plus performante. Côté visiteur, avec des créneaux adaptés à ses contraintes, le soir et le week-end notamment. Et avec aussi des agents, nos agents de visite qui habitent le quartier, qui connaissent pas seulement l'appartement, mais également les commerces de proximité, les écoles, etc.
Et donc, je retiens que vous êtes présent en France, mais sur...
Les 15 plus grosses villes de France.
Les 15 plus grosses villes de France, et c'est pas fini.
Exactement, notre gros enjeu c'est de se développer et de grossir en France dans un premier temps. Donc c'est un, augmenter nos parts de marché dans les villes où on est déjà présent et continuer à ouvrir d'autres villes, parce que là quand je dis les 15 plus grosses villes de France, il en manque encore certaines, Reims notamment, Rouen-Rennes sur lesquelles on est en train de travailler, et voilà, donc c'est quand même un bel enjeu et c'est beaucoup d'opérations.
Parfait. Alors qui vous fait confiance aujourd'hui ?
Alors on a la chance d'avoir la confiance de pas mal de gros acteurs du marché, donc vraiment on est 100% B2B d'ailleurs et on fait tout en marque blanche. On travaille avec des acteurs comme Sergic, comme Nexity, Auralia, Orpi, côté bailleurs sociaux avec beaucoup de filiales d'Action Logement, Inly, 3F par exemple, ou sinon il y a d'autres acteurs comme CDS Habitat, Vilogia ou ICF Habitat. On a aussi la chance de travailler avec beaucoup de nouveaux acteurs qui arrivent sur le marché, des agences digitales, néo-agences ou e-buyers, comme Haussmann, Caliz, HomePilot ou Zephyr par exemple. Et sinon avec d'autres acteurs un peu plus macro comme Altaria, qui fait pas que, bien sûr, que de la gestion, mais aussi de la promotion.
D'accord, donc Altaria que j'ai dit, mais évidemment.
Tout à fait.
Bien sûr, donc très très belle référence, bravo, effectivement, vous avez des belles marques. Et vous travaillez également avec des acteurs locaux, j'imagine, sur les villes où vous implantez. Là, vous nous avez cité des acteurs à échelle nationale.
Oui, tout à fait. Alors, on pilote tout depuis Paris. Et après, on a nos agents de visite qui sont présents donc, en région, dans chacune des villes que je vous ai citées, enfin, sur lesquelles on est présent. Et ils sont autonomes. Et voilà, ils ont une application mobile qui permet de faciliter le staffing de leurs biens et de gérer leurs opérations.
Je suis convaincu que votre offre là, va intéresser à la fois des bailleurs, mais aussi des promoteurs et des ADB, hein, des administrateurs de biens. Comment on vous contacte ?
Alors, tout simplement sur notre site internet, il y a un petit formulaire pour demander des questions ou faire une demande de démo. Et sinon, il y a un email, c'est bonjour@flatsy.fr. Voilà, assez simple.
Alors là, c'est effectivement simple. On reprendra toutefois les différents éléments sur un post LinkedIn dans les prochains jours. On a un petit peu de temps. Alors moi, j'ai une question subsidiaire. Flatsy, ce sera quoi dans 5 ans ?
En gros, on veut vraiment rester sur ce marché de la visite parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses encore à améliorer sur l'existant. Et aussi, tout à l'heure, on parlait de la croissance démographique, enfin géographique, pardon. Donc, beaucoup de travaux à faire sur ce déploiement-là, aussi bien en France qu'à l'international. Pourquoi à l'international ? Parce que le problème de la visite est lié aux horaires, aux annulations de dernière minute, sont communs à tous les pays d'Europe. Donc, on a commencé déjà à analyser un petit peu ce qui se passait en Belgique, au UK, en Allemagne. Et l'idée, c'est de dupliquer le modèle autant que faire se peut. Après, on a bien conscience qu'il y a beaucoup de différences culturelles, réglementaires aussi surtout, entre la France et nos voisins européens. Mais l'idée, c'est d'avancer sur cette offre qui semble simple. En tout cas, on essaie de la simplifier au maximum côté visite.
Donc, Coupe d'Europe, prochain match.
Ouais,
c'est bien ça. Bravo, en tout cas, Alexis. C'était très intéressant et on va suivre... vos prochains succès, on aura l'occasion de vous réinviter pour que vous nous expliquiez tout ça. En tout cas, on a bien compris que vous réenchantiez la visite, vous la facilitez, et c'est vrai pour l'avoir vécu aussi, qu'il y a encore pas mal de progrès à faire sur ce sujet-là. Écoutez, merci beaucoup. J'en profite également pour remercier bien ici, qui est partenaire de l'émission et grâce à qui nous découvrons chaque semaine une belle start-up. Aujourd'hui, c'était Flatsy, grâce à Alexis. Merci beaucoup, bonne continuation et à très bientôt. Merci Alexis.
Merci Jean-Michel, à bientôt.
Le Mac de l'Immo, la start-up Immo, en partenariat avec bien ici, Jean-Michel Royot. To be alive. It feels Le Mac de l'Immo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier.
C'est bon ou je dois faire encore quelque chose là ? Eh bien, cette semaine, le Mac de l'Immo reçoit une fois de plus un invité de marque. Si je vous dis une société qui est un des tout premiers acteurs du marché immobilier, qui propose plus de 10 000 logements par an, ouais, j'ai bien dit 10 000, eh bien, vous reconnaissez peut-être Cogedim, hein, une enseigne qu'on voit à peu près sur tous les sites dans les grandes métropoles, parce qu'ils construisent un petit peu partout, hein, depuis 63, ce sont plus de 110 000 logements qui ont été réalisés. Eh bien, qui vient nous en parler aujourd'hui ? Pas moins que le directeur général Vincent Ego. Je peux vous dire qu'il vaut le détour, parce que vous allez voir que cet homme qui parle plutôt business, eh bien, laisse découvrir une personnalité attachante, puisque Vincent Ego, bonjour, bienvenue, on apprend que vous aimez la nature, que vous aimez le sport, et je parle du rugby, et vous parlez également de faire des balades, et que vous êtes un sacré montagnard. Donc finalement, on découvre énormément de facettes. On va le voir dans la deuxième partie de l'émission. Je vous remercie d'être notre invité, et je précise que vous avez une extinction de voix, donc nous sommes vraiment totalement reconnaissants, parce que c'est vraiment l'apanage des grands dirigeants de répondre au présent, même quand on ne sent pas en pleine forme. Alors, on va faire la meilleure émission de Mac de l'Immo pour un invité comme vous qui, malgré le peu de voix qui lui reste, vient faire l'émission. Merci à vous, Vincent Ego. Dans un instant, c'est votre émission. Vous avez choisi les musiques et, en quelque sorte, vous êtes le maître de cérémonie. Le Mac de l'Immo, c'est...